Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes bien sur choc.ca. C'est mission Encre Noire qui commence, le tome 36, le chapitre 399. Il y a trois manières de faire les choses. Bien, mal et comme je l'ai fait moi. Pablo Escobar. Quatre ans plus tard, en 1989, j'en sais un peu plus sur la Colombie et son histoire. Gabriel Garcia Marquez reçoit son prix Nobel en 1982, vêtu du liqui-liqui, costume traditionnel des habitants des plaines du Venezuela et de la Colombie. Sa renommée et son talent avaient fait le tour du monde. Et pour en savoir plus sur ce pays fascinant, il me semblait logique de lire Cien Años de Soledad dans le texte autant que possible, dont la facilité n'était qu'apparente, car la richesse de son vocabulaire est telle qu'il était plus long de tourner les pages du dictionnaire que celle du livre que j'ai lu en espagnol bien des années plus tard, après la traduction française. Mais en 1989, la violence surpasse celle qui régnait en 1985. Pour expliquer ce déchaînement de brutalité inédite sur le continent, en particulier à Medellín, mais aussi à Bogota, toutes les langues s'enrichissent d'un nouveau mot « narco-terrorisme ». L'actualité en Amérique latine à cette époque est couverte par la société Radio-Canada, par le bureau de Washington, autant dire qu'elle l'est peu. J'y suis nommé correspondant fin 88. Occuper un tel poste a toujours été un rêve, une ambition. Mon travail commence avec la prise de pouvoir de George H.W. Bush en janvier 1989. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de La faute à Pablo Escobar par Jean-Michel Leprince avec une préface de Bernard de Rome parue en 2022 aux éditions Le Méac. Comme le précise l'ex-présentateur de nouvelles, chef d'antenne et animateur de télévision Bernard de Rome, la Colombie est le deuxième pays le plus riche de la planète en matière de biodiversité et possède le deuxième taux de croissance derrière la Chine. C'est aussi l'un des pays les plus inégalitaires et violents. Tout commence, pour Jean-Michel Leprince, sous les bruits d'hélicoptères de ceux qui tentent d'arracher des dizaines de personnes à la boue meurtrière qui a englouti la petite ville d'Armero, due à l'éruption du volcan andin Nevado del Ruiz le 16 novembre 1985. Armero représente un baptême du feu dramatique pour le reporter spécialisé en politique étrangère et en défense nationale au Parlement d'Ottawa pour la télévision nationale de la société Radio-Canada. La Colombie et l'Amérique latine vont devenir pour lui depuis 37 ans maintenant le lieu de découvertes et d'aventures inédites. Car voilà, ce pays non seulement reste un des rares en Amérique latine à avoir presque toujours connu une gouvernance démocratique, mais il s'est également construit sur la violence, le narcotrafic et la corruption. Un nom revient sur toutes les lèvres, bien sûr, Pablo Escobar, une ville aussi, Medellín, qui battait les records du monde de meurtres sous son règne. Voici le livre d'une vie, la somme de plusieurs reportages, d'entrevues de terrain, publiés ici, complétés, contextualisés, qui nous font rattraper le temps d'un pays hors normes pour nous offrir un récit palpitant qui nous fait fréquenter les bas-fonds du crime organisé à l'échelle continentale. Habillez-vous adéquatement, sachez que la nuit à Bogota peut être plus froide qu'à Antioquia ou sur la côte Caraïbe. J'accueille ce soir à Mission Encre Noire Jean-Michel Leprince. Bonsoir Jean-Michel.
Oui, bonsoir.
Vous êtes journaliste de télévision de Radio-Canada depuis 1973. Vous avez couvert des dossiers chauds comme la guerre du Golfe, l'arrivée des troupes canadiennes à l'aéroport de Sarajevo et les premières élections démocratiques en Afrique du Sud. En 1994, vous avez ouvert le premier bureau de Radio-Canada pour les Antilles et l'Amérique latine, région à laquelle vous vous consacrez depuis. Vous avez reçu le prix Maria Moores Cabot de la Columbia Journalism School de New York en 2011 et le prix Raymond Charette en 2020. Alors si le livre commence par le récit du drame de la ville d'Armero, ce n'est pas un hasard puisque ce reportage correspond au début de votre idylle pour un pays, je vais même dire pour un continent, puisque l'Amérique latine devient, on va dire, votre port d'attache en quelque sorte. Avez-vous vécu longtemps en Colombie ?
Je n'ai pas vraiment vécu en Colombie, à moins qu'on additionne les séjours, qui sont quand même assez nombreux. Non, j'ai voyagé en Colombie, de nombreuses reprises. L'endroit où j'ai vécu, c'est à Mexico. Et à partir de là, effectivement, on rayonnait sur le reste de l'Amérique latine. Mais j'ai choisi la Colombie d'abord parce que c'était, comme vous l'avez dit, le baptême du feu, un peu le premier portage aussi de le pays qui m'apparaît encore maintenant comme le plus chargé d'histoire, le plus dramatique, le plus tragique aussi, en même temps qui est porteur d'espoir. On continue à espérer que les choses changent pour le mieux dans ce pays. En tout cas, un pays absolument fascinant, passionnant.
Alors, il y a un sous-titre à votre livre, 37 ans de reportage dans une Colombie hantée par la violence. Est-ce que cela veut dire que toute cette sauvagerie, cette fureur que nous allons découvrir à la lecture est intrinsèquement liée à son histoire?
Oui, c'est ce que j'ai pu développer. Je l'ai recherché. Bien sûr, quand on fait des reportages, si vous les réécoutez ou vous les lisez, ceux qui sont transcrits dans le livre, on essaie toujours de mettre les choses en contexte. Mais on ne va pas remonter très loin. Et donc, je me suis plongé dans l'histoire de la Colombie et ce qui ressort, c'est qu'effectivement, ce pays-là, depuis son indépendance de l'Espagne, qui, comme la plupart des autres pays d'Amérique latine, s'est fait dans la douleur, depuis l'indépendance de l'Espagne, ce pays vit dans la violence. Vous vous souvenez, bon, Simon Bolivar, le grand libertador, qui voulait faire la grande Colombie, qui aurait inclus la Colombie, la Bolivie, le Pérou, le Venezuela, a échoué, évidemment. Donc, il y a eu des dissensions, des divisions. Il a été un petit peu comme écarté du pouvoir, parce qu'il est un petit peu dictateur sur les bords. Et son adjoint, son second, c'était Francisco de Paula Santander, qui est venu après le premier président de la Colombie. Alors, il est resté deux tendances qui sont devenues les libéraux et conservateurs. Conservateurs étant plutôt les bolivariens et les libéraux étant plutôt Santanderiste. Et bon, libéraux, c'est dans le sens où nous, on l'entend, liberté de religion, à la limite même anti-religieuse, et les conservateurs, ben, c'est aussi plutôt centralisateur, comme l'était Bolivar. Et ils sont en train de garder le début. Ce pays a vécu pratiquement 200 ans de guerre civile entremêlée, plusieurs guérillas, des narcotrafiquants, évidemment, enfin bref, et des périodes de guerre civile très, très dures, comme la violencia, par exemple, dans les années 50. Et c'est là qu'on démarre vraiment la Colombie moderne.
Parce qu'on va en parler, la violencia, c'est comme central, je dirais, dans la psyché colombienne, comme vous nous l'expliquez dans le livre. Avant toute chose, j'aimerais quand même vous poser une question qui est assez intrigante, parce qu'on entend plus volontiers parler ici d'Haïti, de Cuba, d'Argentine, de Brésil, voire du Venezuela, plutôt que de la Colombie, qui est pourtant, on le comprend dès les premières pages de votre lecture, un pays encore mal connu. Alors pourquoi ? Parce que ce pays, on le comprend, est pourvu d'énormes richesses, qui a une influence toujours aussi vivace aujourd'hui, rien qu'en parlant du narcotrafic. Alors pourquoi est-il aussi peu connu à votre avis ?
Un peu oublié. Parce que c'est peut-être la violence est devenue tellement, tellement routine qu'à un moment donné, on se dit « Ah bon, encore le narcotrafic ». Bon, encore la guérilla, bon, encore les enlèvements, la saga des enlèvements des FARC, ça a duré combien de temps? 6 ans. Alors, à un moment donné, on se lasse et les massacres sont fréquents. Alors, bon, premiers, les deuxièmes, on fait attention, puis après, plus tellement. Et ce qui se passe au Venezuela est peut-être plus spectaculaire à un moment donné, donc on va le couvrir. Haïti, ça c'est une autre histoire aussi, dramatique, épouvantable, et même maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-on aller en Haïti, par exemple, pour couvrir ce qui se passe? On sait ce qui se passe en gros, et on se dit, ouais, bon, encore la même chose. Et la Colombie, c'est un pays un peu spécial, et isolé des autres, différent des autres. Il n'y a pas eu beaucoup d'immigration en Colombie. La géographie est pour beaucoup, vous avez deux cordillères, absolument pas surmontable mais difficilement praticable, qui sépare qui isole en fait la capitale Bogota, qui se trouve à 2600 mètres d'altitude, dans un endroit un petit peu bizarre. Et il n'y a pas très longtemps, on pouvait accéder, les marchandises accéder à la capitale par à dos de mule, par exemple. Le réseau routier très peu développé, il n'a pas eu le temps parce qu'il était menacé par la guérilla, par les bandes criminelles un petit peu partout, les différentes guerres civiles. Ce pays s'est mis à l'avion très très tôt, c'est le premier à avoir développé des lignes aériennes, parce que le seul moyen de se rendre à Bogota, de Bogota à Medellín.
Alors les années 80 sont des années charnières en quelque sorte, c'est l'avènement d'une nouvelle élite politique, c'est celle de l'ascension des cartels de la drogue et donc d'Escobar. Mais avant de parler d'Escobar en tant que tel, parce que ça fait partie du titre de votre livre, cette génération partage un moment tragiquement fondateur, vous en parliez un tout petit peu tout à l'heure, qui hante la psyché des Colombiens, des Colombiennes sur plusieurs générations, c'est la fameuse violencia, la violence qui commence avec l'assassinat du leader Jorge Gaitán le 9 avril 1948 et s'ensuit des émeutes connues sous le nom tragique de Bogatasso, relaté par un témoin de visu et non des moindres, Gabriel García Márquez. Et ces émeutes vont faire plus de 200 000 morts et autant de déplacés. Alors parlez-nous-en de cette violence, la violencia, de quoi s'agit-il ?
Alors c'est ça, c'est cette histoire qui remonte à l'indépendance, ces deux factions, les libéraux contre les conservateurs, qui étaient à tour de rôle dominants au gouvernement central, donc violemment opposé par l'autre parti qui essayait de défaire ce qui avait été construit par le premier, les conservateurs en essayant de rétablir davantage l'autorité de la religion, les libéraux au contraire en se libérant de la religion, en adoptant des mesures sociales aussi, la chose classique quoi, qui arrive comme chez nous partout, sauf que là ça se faisait dans la violence. Et quand le parti libéral perdait le pouvoir, là, les conservateurs en profitaient, se vengeaient, puis c'était encore des massacres, et ainsi de suite. Et ça a duré jusqu'à un accord dans les années 60-70, un accord d'alternance au pouvoir. Donc un coup c'était les libéraux, un coup c'était les conservateurs, et ça marchait relativement bien. Mais ça a marché pour le gouvernement central et dans le reste du pays, ça a continué, la violence a continué sous d'autres formes. Et puis, très vite, on arrive dans les années 80. Effectivement, apparaissent les cartels pour revenir à la catastrophe d'Armero. C'est là qu'on a découvert, plus au nord, l'existence de Pablo Escobar, parce que le narcoterrorisme n'avait pas vraiment commencé encore, mais le narcotrafic avait commencé parce que c'était le pionnier. Donc, avec la tragédie d'Armero, on a appris que Pablo Escobar avait détourné deux de ses hélicoptères qui servaient au trafic de drogue pour aider les sinistrés d'Armero. Bon, c'est une bonne pensée de sa part. Et puis, moi, j'ai découvert une fois sur place, parce que le monde entier a porté vraiment attention en 1985, une semaine avant Armero, là où on a fait attention, il y a pris du palais de justice par le M19, la guérilla, plutôt urbaine. Et c'était on a appris par la suite que c'était une prise de la Cour suprême par la guérilla prévisible. On savait qu'ils allaient s'attaquer, ils avaient des renseignements très précis. Et comme par hasard, la sécurité de la Cour suprême, ce jour-là, il n'est plus là. Et donc le M19 a envahi. Et là, l'armée bombarde littéralement le palais de justice, entre de force dedans, massacre tous les guérilleros, massacre tous les juges de la Cour suprême. On ne sait pas si c'est les guérilleros avant qu'ils ont massacré, mais on pense que non. Il reste encore 11 disparus, on ne sait pas où ils sont, on a fait disparaître les disparus. C'est incroyable, on ne connaît pas encore tout à fait tout le fond de l'histoire. Et on a appris que Pablo Escobar avait financé le M19 et qu'il m'avait chargé, entre autres, enfin, le M19 avait des revendications politiques, bien sûr, mais avait chargé le M19 de détruire tout le dossier qui avait trait à l'extradition des narcotrafics vers les États-Unis. C'est parce que Pablo Escobar et tous les narcotrafiquants voulaient absolument éviter d'aller se retrouver un jour aux États-Unis. Et la devise de ces narcotrafiquants est restée, c'est pas bien de Pablo Escobar, mieux vaut une tombe en Colombie qu'une cellule aux États-Unis. Alors voilà, ça, c'était la continuation de la violence, il y a par d'autres moyens.
On le comprend bien, vous le suggérez assez facilement, que non seulement Escobar fait partie de votre titre dans ce livre, mais que Escobar s'infiltre dans toutes les arcanes de la société colombienne. Alors, effectivement, pour en revenir au livre, c'est le sujet du livre de 400 pages passionnantes, foisonnantes. Néanmoins, dites-nous, en quoi ce nom, Escobar, qui est devenu depuis un héros de série grâce à Netflix ou Caracol Television en Colombie, en quoi ce nom résume-t-il finalement toute la démarche de votre livre ? Qui est Pablo Escobar ?
Pablo Escobar est le produit, c'est le fruit, c'est le fils de ce pays violent de la Colombie. Il a été fait par la Colombie et il a laissé à la Colombie un héritage absolument incommensurable qui pèse encore très très lourd. Pour vous donner une idée, abordant la question de la corruption, l'argent du narcotrafic qui est encore plus important maintenant qu'avant, j'ai une citation de Alonso Salazar, qui est un écrivain, c'est lui qui a été scénariste de Narcos, de la série aussi de Caracol. Il écrit « Si la moitié des Colombiens sont pas en prison, c'est parce que Pablo Escobar, il payait jamais par chèque, mais uniquement en comptant. » Donc, pour vous dire que... Alors, et c'est toujours valable. Et je me suis dit à la fin d'écriture du livre, est-ce que j'exagère en mettant le nom de Pablo Escobar en le maintenant aussi haut, alors que je sais que grande partie de la Colombie veut oublier et même effacer dans l'histoire ce nom, ce qui est impossible à mon avis. Et non, je me suis retrouvé au moment de l'élection de 2022, fin mai, à Medellín, et j'ai retrouvé un défenseur des droits de la personne, Fernando Quijano, que j'avais déjà rencontré en 2016, qui m'a dit de lui-même dans l'entrevue, écoutez, c'est exactement à Medellín, on parlait de Medellín, de ce qui se passe là, parce que c'est une ville très agréable maintenant, mais ça demeure toujours un berceau du narcotrafic, faut pas se le cacher. Il me dit, c'est comme si Escobar était encore vivant, mais c'est encore pire. Je me suis me demandé aussi, parce que j'ai appris quand j'étais pas là, mais en 2018, le maire de Medellín a fait sauter le fameux immeuble Monaco où logeait Pablo Escobar et où était sa collection de luxe, un grand immeuble, et où sa famille occupait les deux étages supérieurs. Et c'était sur le chemin des tours de Pablo Escobar, parce que c'est pas se cacher non plus, les tours de Pablo Escobar à Medellín sont encore plus importants que j'y étais la dernière fois. Quand je suis allé chez Roberto Escobar, son frère, par hasard, j'ai découvert qu'il y avait un tour qui finissait chez lui.
Oui, puis on la vit en détail, il y a beaucoup d'expressions. On voit bien que vous avez vécu dans ces rues colombiennes des grandes villes. Hein. On voit des expressions funestes comme picar, paratamal, corte flanella, el corte florero. Vous irez voir un petit peu tout ce que ça veut dire. C'est pas toujours, supportable quand on l'imagine. Des pratiques finalement que les cartels n'ont pas forcément inventées. Parce que la violence commence aussi dans les régions, dans les campagnes. Est-ce que ça serait comme un héritage du colonialisme, ce genre de pratique ?
Colonialisme, oui, parce que dans un sens, oui, parce que les Espagnols ne sont pas très tendres avec les créoles et surtout avec les esclaves. Ça, c'est clair. Mais non, je pense que c'est un héritage post-colonial. C'est vraiment cette guerre entre libéraux et conservateurs, et dans les zones non contrôlées avant l'apparition du narcotrafic, il y avait des bandoleros. Vous avez parlé des méthodes d'exécution et puis le raffinement dans la terreur. C'est pas les cartels qui l'ont inventé, effectivement. Et moi, je pense que les héros de Pablo Escobar, c'est pas seulement Zorro ou Robin des Bois, mais c'était aussi plusieurs de ces bandoleros qui régnaient sur certaines régions, qui semaient la terreur et qui étaient confrontés par une armée fédérale bien souvent impuissante. Il y en a eu beaucoup, et ça a duré longtemps, ça, jusqu'aux années 60. Et puis alors, bon, parlons de la guérilla aussi, ça s'est greffé là-dessus. Pourquoi les FARC sont apparus il y a très longtemps, en 1964. Et bon, vous vous souvenez, la révolution cubaine, c'est 4 ans avant, et là c'est une autre dimension. Les FARC, au départ, ce sont des gens qui veulent défendre les droits des paysans, le droit à la terre, etc. Donc, c'est des motifs très, très nobles, comme la révolution cubaine au départ. Mais, et là, je reviens à Pablo Escobar, parce qu'il a donné aux guérillas le moyen de se financer et de pouvoir durer dans le temps et de combattre, de façon spectaculaire. Mm-hmm. Les guérillas qui restent sont encore, se financent encore par le narcotrafic, tout comme les paramilitaires qui ont été formés sous l'ombre encore de Pablo Escobar pour combattre les guérillas et défendre les propriétaires terriens, mm-hmm. parce que la possession de la terre en Colombie, c'est très très important pour tout le monde, du petit paysan au grand propriétaire terrien.
Mais on va revenir au FARC un petit peu plus tard. J'aimerais revenir aux bandoleros. Il y a quelque chose qui est quand même fascinant en sous-texte quand on vous lit, parce que votre livre se lit comme un roman. C'est passionnant de bout en bout. Vous arrivez à nous faire partager votre curiosité, votre passion pour la Colombie. Et il y a beaucoup de personnages. C'est étonnant. Les principaux personnages, finalement, ont tous des surnoms qui sont utilisés à tort et à travers. Le crocodile, Aigle Noir, le Mexicain, Timochenko, Don Berna, El Mocho, le hibou, Tiro Fijo, tire juste, l'ange gardien, il y en a comme ça, il y en a à foison. Alors, je me suis demandé, mais pourquoi autant de surnoms? On dirait qu'on parle de héros de BD ou de personnages de lutte quasiment. Y a-t-il une dimension ludique et macabre en même temps?
Et puis je fais le parallèle avec ce qui se passe au Mexique, où vous avez ces légendes chantées, les fameux corridos. Pour les bandoleros, à une époque, c'était pareil. C'était de tradition orale, ça se transmettait comme ça, les exploits de ces personnages sinistres. Au Mexique, on appelle les corridos, et ça raconte en chanson les exploits bien souvent sinistres de grands narcotrafiquants. Mais c'est très populaire, ça fait partie du folklore.
Alors, s'agissant des FARC, effectivement, vous en avez parlé un tout petit peu tout à l'heure, il y a un épisode qui est resté célèbre, la libération d'Ingrid Betancourt. On vous voit en photo d'ailleurs avec elle assez récemment, me semble-t-il, en 2021 ou 2022, quelque chose comme ça, qui est restée en fait prisonnière 6 ans dans la jungle. C'était une amie de Dominique de Villepin, ministre des Affaires étrangères en France, qui a été accueillie en grande pompe par le président Nicolas Sarkozy à son retour au pays. Mais malgré la souffrance, l'exil d'Ingrid Betancourt, il y a comme un immense mensonge derrière sa libération. Quand, à vous lire, on a l'impression de vivre une tragique farce, n'est-ce pas?
Oui, c'est curieux parce que là aussi, c'est en fouillant un petit peu tout ça, en faisant de la recherche pour compléter le livre, parce que moi j'en étais resté à la version officielle, cette libération absolument extraordinaire, sans ces fusions de sang, une machination, une tromperie géniale, tromper deux grands commandants de la guérilla pour les forcer à leur amener les otages jusqu'aux hélicoptères. C'est plausible, mais bizarre quand même, et il y a beaucoup de gens qui ont semé des doutes là-dessus. Mais donc l'autre version, ça serait que l'un des commandants aurait été payé par l'État pour justement serait complice de cette machination, et aurait amené tout à fait sciemment les otages sous l'hélicoptère. Et d'ailleurs, il a embarqué avec son adjoint dans l'hélicoptère, ils se sont fait tabasser dans l'hélicoptère. Mais on sait pas où il est. Les autorités disent qu'il est en prison aux États-Unis, trafic de drogue, les enlèvements, etc. Mais c'est pas clair, et on pense qu'il a touché de l'argent.
Alors la Colombie n'échappe pas aux aléas conservateurs et populistes qui habillent les arcanes politiques du monde entier aujourd'hui. L'élection de Gustavo Petro, premier président de gauche de la Colombie en 200 ans, a été confrontée à Rodolfo Hernandez, qui lui a 77 ans et est plutôt l'image, on va dire une sorte de Trump de Bolsonaro colombien, qui a eu des gros soutiens populaires. Alors évidemment, est-ce que la Colombie guérit peu à peu de ses blessures?
Ah oui, tout à fait. Il y a une tentation populiste facile, encore une fois, Colombie, et c'est passé très près. Hein, Gustavo Petro a gagné, mais de justesse, l'autre a pu gagner aussi. Et c'est vraiment étrange, parce que ce personnage, Rodolfo Hernandez, pas vraiment intéressant, il est venu de nulle part. Et puis ce qui s'est passé, c'est que l'adversaire principal, Francisco Gutiérrez, ancien maire de Medellín, celui qui a fait détruire justement l'immeuble Monaco, qui s'est présenté pour le parti, disons, plus à droite contre Gustavo Petro, lui a été désavoué par ce qu'on appelle les uribistes, ceux qui soutenaient Alvaro Uribe et puis le président sortant Iván Duque, qui était pur et dur, très conservateur, contre l'accord de paix avec les FARC, qui ont tout fait pour le torpiller. Et puis, ils ont trouvé apparemment que Francisco Gutiérrez n'était pas assez comme eux. Ils l'ont lâché au dernier moment pour ce populiste Rodolfo. Et d'ailleurs, vous mentionnez Ingrid de Boncourt, que j'ai rencontrée pour la première fois seulement en 2022. J'ai rencontré sa mère avant plusieurs fois, 2006, 2008, quand elle était encore en Italie. Mais après, quand elle a été libérée, elle était en France. Moi, je ne l'ai pas rencontrée. Là, pour la première fois, je l'ai rencontrée. Parce que, entre autres, elle fait partie de la campagne électorale. Et de façon surprenante, elle était candidate, elle a vu qu'elle n'avait pas d'appui, et elle s'est ralliée à Rodolfo, elle l'appelait mon petit vieux, ma Piero, et puis elle pensait avoir un poste très important, un ministère quelconque qui gagnait, et sous le thème de la corruption, de la lutte à la corruption, c'est tout. Donc c'est tout bizarre qu'elle s'allie à ce personnage, et je sais qu'elle déteste Gustavo Petro, ça c'est clair, elle l'a dit. Beaucoup de gens en Colombie le détestent parce qu'il est de gauche, parce que c'est un ancien guérillero. C'est une société assez conservatrice dans le fond.
Alors pour finir, à vous écouter, ça me paraît évident, toute la passion qui vous habite pour un pays et pour un métier, parce qu'on découvre entre vos lignes aussi le métier de grand reporter. Lorsque vous regardez toutes ces années de reportage, il y a quelque chose de tintinesque quasiment. Vous avez vécu des tonnes d'aventures. J'imagine que l'ensemble de vos mémoires prendrait bien plus que de 400 pages. C'est quoi l'avenir des grands reporters? Il n'en reste plus beaucoup. Selon vous, alors des médias sociaux, des regroupements de grands groupes de presse, est-ce que vous faites partie, si je peux le dire comme ça, des derniers grands dinosaures? L'écrit, ça devient quelque chose d'oublié, de futile?
Moi, je suis pas d'accord, j'espère que non, mais c'est sûr qu'on a une période d'incertitude. Mais si vous regardez la couverture qui se fait en Ukraine en ce moment, c'est intéressant, là. Et puis on peut parler de grands reporters, de grands reportages. Et moi, je pense que les grands médias traditionnels, entre guillemets, sont considérés comme fiables. En particulier, j'ai vu un sondage récent de Radio-Canada au Québec et au Canada. Donc, maintenant, les réseaux sociaux, oui. Mais moi, ça ne me dérange pas beaucoup parce que mes reportages, ceux qui sont les plus intéressants, sont tweetés. Donc les gens, ils vont les voir avec Twitter. Il y a une page Facebook de Radio-Can où on les retrouve aussi. Il y a une page web, un site web de Radio-Can qui est très, très fréquenté. Donc, c'est un peu le fouillis, si vous voulez, mais on retrouve ce qu'on fait, nous aussi. Donc, ce n'est pas seulement à la télé, au téléjournal, mais ça l'est aussi. Puis, on dit qu'on est en perte de vitesse, en diminution, mais au téléjournal, on a encore chaque soir à peu près 400 000 téléspectateurs. C'est énorme. Trouvez-moi un média social qui a autant d'impact à un moment donné. Ce qui m'a fait écrire ce livre-là, c'est que j'ai mentionné le prix Maria Bouscabé, que j'ai trouvé très intéressant parce qu'il y a très peu de Canadiens qui l'ont eu, très peu de francophones qui l'ont eu. Et c'est un prix qui récompense la couverture des Amériques, en général. Donc, pour la suite, si vous voulez, moi, j'ai de quoi faire pour le Mexique, j'ai de quoi faire pour Haïti, j'ai de quoi faire pour Cuba, puis je m'arrêterai là, ça, c'est sûr. Mais je vais probablement m'attaquer au Mexique, où j'ai vécu en plus, c'est peut-être encore plus personnel que la Colombie. Et voilà, bon, je vous l'annonce. Je prends pas une primeur, hein, j'ai déjà parlé à l'éditeur, qui est d'accord. Donc,
Voilà, voilà. Non seulement ce livre est un magnifique acro-livre, c'est un grand plaisir de se replonger dans un récit fleuve et détaillé de l'histoire, certes dramatique et sanglante, de la Colombie. Vous courez également la chance de partager la passion de Jean-Michel Leprince pour un pays fascinant, pour son histoire et son peuple, mais également pour une profession, le journalisme de grand reportage, vous l'aurez compris, pour laquelle ce livre donne ses lettres de noblesse. La faute à Pablo Escobar par Jean-Michel Leprince, avec une préface de Bernard de Rome, paru aux éditions Le Méac. Merci beaucoup Jean-Michel d'avoir accepté cette invitation à Mission Encre Noire. Je donne une conférence à Paris la semaine prochaine. Peux-tu t'occuper d'organiser mon séminaire sur la décolonisation féministe ?
Ouais, pas de problème.
Ok. Dis-moi ce que tu sais sur le service de ton père au Vietnam. Il a été impliqué avec le ministère de l'Agriculture dans un village appelé Dalat. Tu connais son rang et son unité ?
Pas du tout.
Alors ajoute ça à tes devoirs. Apparemment, on lui a donné une médaille. Est-ce que ça veut dire qu'il a été impliqué dans des combats ?
Ouais, mais quelle médaille ?
On dirait une étoile de bronze. J'en ai vu des similaires sur un site internet de l'armée. Une étoile de bronze est remise pour honorer le courage et le sacrifice personnel lors de combats. Comment un soldat qui fait pousser des légumes pourrait recevoir une telle médaille ? Son rôle a pu changer en cours de route. Ou l'histoire des légumes est un leurre. Tu sais, Pat, beaucoup de soldats ont inventé des histoires pour se protéger eux et leur famille. Certains finissaient par y croire dur comme fer. J'ai déjà fait une entrevue avec un vétéran qui était convaincu qu'il avait effectué un travail de bureau durant la guerre. Quand il a fait une demande pour recevoir ses allocations 40 ans plus tard, son dossier a révélé des citations pour courage au combat et des blessures exigeant de longs séjours à l'hôpital. Il était convaincu qu'ils avaient le mauvais dossier et il a refusé ses allocations initialement. Ceci est un extrait de « Géant au pied d'argile » par Alain Chevarier et Marc Maguire, paru en 2022 aux éditions Mouel Graphique. C'est quoi le problème avec les hommes aujourd'hui ? Lance un aîné assis sur un banc près d'un parc qui observe l'attitude d'un père avec son enfant. Pat et Mathieu sont deux papas qui tentent de faire et de vivre leur paternité autrement que les générations précédentes. Pour éviter de répéter les mêmes erreurs, il leur faut se confronter au passé de leur propre père, tout en restant bien présent dans le quotidien de leur famille. Ce qui ne se révèle pas si facile. Les traumatismes ont transcendé les filiations, les mères poursuivent leur carrière, les hommes prennent en charge un quotidien traditionnellement réservé aux femmes. Pat est celui qui en souffre le plus. Une rage noire se faufile en lui depuis l'enfance. Tout le monde en souffre. Ses parents se sont séparés et son père, ancien militaire, est un alcoolique notoire. Il n'a plus le choix. Il devra trouver l'origine de cette colère pour sauver l'équilibre de sa famille. Voici une BD de rage, de colère, d'abnégation et d'acceptation qui devrait marquer à n'en pas douter cette année qui s'achève. Je reçois ce soir à Mission Encre Noire Alain Chevarier et Marc Maguire. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alain, vous êtes réalisateur et monteur, vous collaborez à la Fabrique culturelle depuis 2013, vous avez obtenu une nomination à la réalisation au prix Gémeaux en 2013 pour Tout le monde dehors. En 2021, vous illustrez la couverture de René Lévesque, Quelque chose comme un grand homme, et dessinez l'un des plus beaux chapitres, celui qui raconte le reportage de René Lévesque en Corée. Mark Maguire, vous êtes écrivain, documentariste et professeur d'art et lettres au cégep John Abbott depuis 2005. Vous êtes d'origine américaine, ancien joueur de basket au Davidson College en Caroline du Nord. Vous êtes installé dans l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie à Montréal depuis 2004. Avec votre femme et vos voisines et voisins, vous avez fondé en 2015 l'école alternative Le Vitrail. Shukendo Now, votre film sur des pèlerins urbains de Tokyo et Osaka, produit avec Jean-Marc Abella, a obtenu le prix David Platt en 2011 pour le meilleur média pédagogique. Alors la première question pour tous les deux, est-ce que, puisque l'album se situe dans Rosemont, la petite patrie à Montréal, est-ce que vous y vivez encore l'un et l'autre ?
Tous les deux.
Alors l'album s'ouvre sur une belle aquarelle, une famille dans un parc, un père dont l'ombre porte presque menaçante jusqu'à son fils qui est juste devant lui. Comment vous est venue l'idée d'une collaboration autour de cet album ? Ça a pris combien de temps déjà à faire ?
On s'est d'abord rencontrés dans un gymnase d'école primaire, dans une activité parents-enfants. On était tous les deux avec nos enfants en bas âge. Puis la conversation du basketball est venue toute seule parce que moi-même, je joue encore en tant que vieux crunch dans des ligues de garage de basketball. Puis on est toujours à la recherche de joueurs qui sont plus grands, qui sont capables de bien jouer au basketball. Puis quand j'ai vu Marc ramasser un ballon puis lancer avec la technique parfaite d'un lanceur de basketball, tout de suite, je suis allé voir pour savoir s'il voulait jouer dans mon équipe. Et ça a été un gentil nom qui a été suivi par plusieurs noms jusqu'à temps que je comprenne que vraiment ça y tentait plus. Mais à travers ça, l'idée de faire, à travers nos conversations sur la paternité, l'idée de faire un livre là-dessus est née.
Alain aussi, dans cette gymnase, avec nos enfants, il m'a montré sur son cellulaire une photo d'un tableau qu'il avait peinturé. Puis dans le tableau, moi, je me sentais des fantômes qui lui hantaient depuis son enfance. Puis il m'a dit que son grand-père était un prisonnier de guerre en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis nous, on a trouvé un lien que moi aussi, mon père était un soldat en Vietnam pour les Américaines. Donc, on a trouvé un sujet depuis quelque chose qui était important pour nous depuis notre enfance. C'était quoi les réverbérations de traumatisme d'une génération à l'autre et c'est quoi l'impact dans notre vie aujourd'hui. Donc, avec ça, nous, on a trouvé plein de sujets, des discussions très longues.
Alors, il y a deux citations qui ouvrent le livre. L'une de Spinoza, je la cite, « Une émotion qui est une souffrance cesse d'être une souffrance sitôt que nous en formons une idée claire et distincte. » L'autre citation est d'Avec Pas de Casque, le band québécois. « Tu sais que l'ours n'est pas vraiment méchant, il a peur. » Alors, pourquoi ces choix de citations ? Et j'aimerais aussi rajouter, pourquoi avoir choisi le format BD pour en parler ?
Bonne question. Je pense que la première, par Baruch Spinoza, résume très bien le travail que Alain a fait comme illustrateur et co-scénariste de notre livre. Lui, il avait transformé la souffrance, la peine de plusieurs générations de nos deux familles en images qui sont à la fois puissantes et très beaux. Puis, tu sais quoi, pendant notre 7 ans de travail, moi, j'avais l'impression que j'ai fait du progrès dans mon parcours de guérison. Donc, nous, les images, l'histoire, ça nous aidait de s'exprimer. Et d'après moi, quand tu trouves quelqu'un que tu peux partager tes expériences, ça coupe la douleur. Mais je suis un grand fan d'Avec Pas de Casque depuis toujours. Puis j'ai tombé sur cet album dans la nature, je crois bien. Puis Alain, on avait vient de parler que des fois des hommes, on a juste comme une émotion qu'on est capable d'exprimer, c'est la rage, c'est la colère là. Puis peut-être au fond de cette colère, selon Alan, c'est la peur de perdre le contrôle. Donc, j'avais entendu cette explication d'Alan, puis on était en train d'écouter un disque de vinyle chez moi, donc j'ai mis les deux ensemble, puis voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ça.
Alors, on comprend à vous écouter au début de cette entrevue que, bah, effectivement, c'est quasiment l'illustration du début du volume, puisque il s'agit effectivement d'autofiction. Vous abordez les enjeux autour de la paternité à travers deux personnages, deux pères. On comprend, vous en avez discuté longtemps, puis c'est le cas également des deux personnages dans le livre, mais quels angles avez-vous priorisé et pourquoi la BD, justement?
Au départ, c'était de voir quels sont les effets dans le quotidien de ce qu'on a vécu à l'enfance, de ce qu'on a des gens qui nous ont entourés à l'enfance, puis des traumatismes qu'on a identifiés, qui nous appartiennent pas tout à fait. C'est-à-dire que cette colère-là, comme papa, qu'on avait de temps en temps envers nos enfants, s'ils faisaient quelque chose de niaiseux comme échapper du lait, ce qu'aujourd'hui je me disais, pourquoi je m'énervais comme ça. Je reconnaissais beaucoup les réactions des pères, de mon père et de mon grand-père avant moi. Et les impatiences que j'avais ressemblaient beaucoup aux siennes. Fait qu'on se demandait, on s'est posé la question, est-ce que, jusqu'à quel point est-ce que ce que ces gens, ces pères-là ont vécu, nous appartient pas, comment ça se fait qu'on l'a intégré? C'est une des premières questions. Puis pourquoi la bande dessinée? Je pense que c'est parce que, d'abord, on a eu l'idée, Marc avait déjà pensé à faire un film avant même de m'en parler. Moi, quand j'ai embarqué comme réalisateur, je me suis dit, oui, ce serait intéressant, sauf que on se dit très bien que c'est très long et c'est, comment dire, c'est dur de faire un film en partant avec peu de moyens, tandis que partir d'une bande dessinée avec peu de moyens, c'est beaucoup plus facile. Puis quand je parle de film, je parle de long-métrage, parce qu'on savait déjà que cette histoire-là, ce serait pas un court-métrage, que c'était parti pour être beaucoup plus épique. Alors la bande dessinée aussi, ce que ça nous a permis, c'est d'aborder avec un médium qui peut se prêter au sujet sérieux, mais que stéréotypiquement parlant, on prend moins au sérieux. C'est-à-dire que ça va, c'est des petits dessins, il y a des choses écrites. Donc, les gens entrent dans une bande dessinée avec des attentes autres que celles d'un roman ou d'un film. Et quand on arrive avec des sujets qui sont plus profonds, ça les surprend. On peut les amener vers des sujets qui sont difficiles.
On y reviendra un petit peu plus tard. J'aimerais que vous nous présentiez justement ces deux principaux personnages que sont Pat et Mathieu.
Pat, c'est un homme quasiment 7 pieds de grandeur, ex-basketballer, un peu comme moi. Il a deux enfants comme moi. Puis il avait l'impression que, mais je pense qu'Alain a expliqué bien tantôt, certaines émotions et souvenirs qui appartiennent pas nécessairement à nous, mais qui sont là, qui mettent une certaine pression sur la vie quotidienne, la vie familiale. Puis, comme moi, Pat aussi, il a une question, est-ce que ces émotions, est-ce qu'ils sont transmis génétiquement, mettons, d'une génération à l'autre, ou est-ce qu'ils sont le produit de son imaginarium? C'est deux questions que moi, je me posais aussi. Mais en même temps, Pat et pas moi. Pat, c'est mon alter ego, je ne sais pas si c'est le bon mot. Avec l'aide, le soutien, la collaboration de Alan, j'avais la possibilité de pousser encore plus loin le personnage de Pat que j'étais capable de faire moi-même dans ma vraie vie. Puis aussi, c'était vraiment intéressant. On avait fait des scènes dans le bande dessinée, des discussions, mettons, avec le frère de Pat ou le père de Pat, que n'était pas possible dans la vraie vie. Donc, des questions que j'aimerais vraiment poser à mon père ou mon frère, ou des sujets que j'ai jamais osé lever avec eux, mais dans le livre, c'était possible. Donc, c'était un peu comme, je sais pas, pas nécessairement, mais dans le livre aussi, il y a des rêves. Parce que moi, dans ma vraie vie, les rêves me portent toutes sortes de découvertes, des choses que j'ai pas encore nécessairement complètement digérées. Mais dans le bande dessinée, j'étais capable, encore avec le soutien d'Alain, de pousser plus loin et de poser des questions et aussi de creuser plus profondément dans certains sujets, dans certaines mémoires. Je peux te donner un exemple. Il y a une scène dans le livre, Pat, il arrive à la maison, il est incapable d'ouvrir la porte. Puis au début, il pense qu'il y a un problème avec ses clés, mais c'est pas ça. C'est plutôt le fait que sa main tremble. Il est incapable. Puis moi, après des années de réflexion, j'ai trouvé des liens entre moi et mon père. Parce que chaque fois que j'arrivais à le même âge de mon père, j'ai eu des expériences bouleversantes dans ma vie qui étaient semblables à ce qu'il a vécu même âge. Puis dans le livre, on a essayé de mettre les deux expériences en parallèle. Puis le BD est parfait pour ça parce que tu peux mettre dans la même case deux moments, le présent et le passé, et ça ne coûte pas une fortune.
Alain, de votre côté, est-ce que Mathieu, oui. Qui lui, souffre-t-il des mêmes problèmes alors que lui, il ne s'agit pas de son père, il s'agit de son grand-père?
Oui, sa situation est différente, puis c'est ça qui était intéressant à la base, c'est que ça nous permettait d'explorer une palette plus riche de comportements ou de problématiques ou de conflits. Des conflits internes des personnages. Mon personnage à moi, qui est basé sur mes expériences, mais que comme ce qui était vraiment chouette là-dedans, c'est que ça permettait de fantasmer des trucs, c'est-à-dire de dire ici telle chose était arrivée, ici je mettais mon personnage dans une situation qui m'est pas vraiment arrivée, mais qui ressemble à quelque chose que j'ai déjà vécu. Comment est-ce qu'il réagirait? Où est-ce que ça l'amènerait? Et ça permet de faire, c'est quasiment de la c'est la réalité augmentée, c'est-à-dire que c'est encore plus vrai parce qu'on se permet d'inventer des choses qui sont collées à une réalité qu'on peut pousser plus loin que ce qui est arrivé dans nos vies à tous les deux. Puis dans la construction de l'histoire, ben, ce que ça permettait, c'était d'avoir des deux hommes qui sont tous deux volontaires dans leurs principes et dans leurs croyances profondes qui veulent s'occuper de leurs enfants, qui veulent être présents. Qui ne veulent pas répéter les erreurs de ceux qui ont été là avant eux mais qui se rendent compte que c'est peine perdue, il y a des choses qui se reproduisent malgré eux, malgré leurs meilleures intentions. Moi, ça me permettait d'avoir un personnage qui ne souffrait pas dans la même sphère que le personnage de Pat.
Comme je le disais en introduction, il y a un aîné qui porte un regard critique sur ses rôles de père aujourd'hui dès les premières pages. Qu'est-ce que cela a changé dans vos vies, dans les vies de Pat et Mathieu, justement, d'envisager la paternité autrement? Mathieu a cette phrase, je la cite, « C'est rien d'aussi pire que ce que toutes les mères ont eu à traverser. »
Que ça a changé, ça permettait de nommer des choses qui étaient difficiles à vivre, puis qui entrent en contradiction avec moi, mes valeurs, puis de voir d'habitude quand il y a une contradiction, c'est parce que il y a un fossé entre ce qu'on perçoit qui est la bonne chose puis ce qu'on est. Alors cette contradiction là est dure à vivre parce que on aimerait pouvoir réagir d'une certaine façon, mais on n'y arrive pas parce que la réalité des choses est différente, on les perçoit, on les ressent d'une autre façon. Puis c'est là que la BD s'en va vers la fin, c'est vers l'acceptation du fait que ben oui, on est comme on est, on réagit comme on réagit. On peut pas être dans le déni de ça parce que ça empire les choses. Alors l'acceptation permet de réagir soit au moment ou au pire après et de réparer les pots cassés. Mon personnage aussi, à un moment donné, il dit, ben en traduction, je m'en rappelle plus exactement verbatim, là, mais c'est quand tu fuis dans le lit, tu prends les draps, tu les nettoies, puis si tu rates quelque chose avec tes enfants, si tu dis une connerie, si tu pètes les plombs, tu vas réparer après. Tu vas t'excuser à ton enfant, ce qui est quelque chose que nos pères n'ont jamais appris à faire, puis c'était c'était comme ça que ça fonctionnait, un point c'est tout. Ça, c'est un gros changement qu'il y a eu, mais qui nous rend plus vulnérables. Donc, ce qui est une bonne chose, mais qui est une chose difficile à vivre.
Oui, je pense que la confrontation de nos contradictions, c'est un thème très important dans le livre. Puis, on essaie d'être, mettons, des hommes proto-féministes. On est en solidarité avec l'égalité de genre, de sexe et tout. Mais quand on essaie de s'occupe de mon expérience, quand j'essaie de prendre soin de mes enfants à la maison pendant que ma femme travaille et voyage, j'étais vraiment confronté par la difficulté, par la tâche, parce que j'avais pas des bons modèles, j'avais pas des hommes qui étaient vraiment présents dans ma vie, j'avais pas une père ou des autres hommes qui s'excusaient quand ils faisaient des gaffes ou des dégâts dans notre vie. Puis c'est quelque chose qui était vraiment douloureux pour plusieurs années. Puis je me sentais isolé et seul, parce que les autres hommes autour de moi, ils avaient comporté comme tout va bien, comme c'est normal, que d'une génération à l'autre, les hommes étaient, mettons, toujours au bureau, ils changent pas des couches, ils poussent pas le poussette dans le espace public. Puis tout de suite, nous, notre génération, on essaie de faire tout et en même temps corriger des erreurs de la génération précédente. Puis, mais moi et Hélène, on avait trouvé que il y avait toutes sortes de contradictions à confronter, il y avait toutes sortes d'épisodes très drôles aussi de présenter. Jusque date, on a parlé beaucoup des choses sombres et sérieuses, mais dans le livre aussi, il y a des moments de hilarité, des blagues, des choses qui arrivaient qui étaient vraiment insupportablement drôles.
Oui. Il y a effectivement le moment où Pat et Mathieu échangent sur leur rôle, leur organisation, leur plan de match pour organiser le quotidien des enfants. Oui. Il y a vraiment des passages très drôles. Néanmoins, puisque c'est un peu, je dirais, le cœur du sujet. Page 30, il y a une double page impressionnante. Dans le sous-sol, Pat et ses enfants visionnent des diapositives. Le grand-père apparaît avec un fusil à la main, vêtu d'un uniforme de l'armée américaine. C'est quasiment l'image inversée de la couverture du livre, qui est une aquarelle en couleur. En tout cas, cette page à l'intérieur du livre, la fameuse page 30, résume finalement l'enjeu générationnel du livre, en quelque sorte.
Ah ben, c'est chouette ça, parce que on s'en est rendu compte, mais pas aussi clairement que ça vient vraiment l'articuler, que tu as dit l'articule encore mieux que ce qu'on avait pensé à date. Mais oui, c'est vrai.
Mais quand j'étais petit, j'ai toujours posé des questions à mon père concernant son service militaire. Puis il m'a jamais répondu pour de vrai. Il avait dit toutes sortes de choses, comme il avait poussé des légumes, comme on blague dans le livre, là. Mais un jour, c'était comme quelques mois après ma fille était née, mon père, il est arrivé à Montréal, de la Floride, avec une boîte. Puis dans la boîte, il y avait toutes sortes de diapositives qu'il avait pris, des photos pendant la guerre, quoi. Puis mon père, il a dit, écoute, je donne ça, j'espère que ça t'aidait, mais tu peux mettre dans le poubelle aussi, je m'en fous.
Oui, en termes de l'image, cette image-là est construite pour montrer l'espèce d'omnipotence du grand-père, c'est-à-dire que c'est une figure qui est énorme dans la page. Le fils lui face, étant donné que l'image projetée sur un visage et un torse qui sont énormes sur le mur, puis on est à la hauteur, je l'ai dessiné à la hauteur de l'enfant.
Mmh. Ouais, bah, l'ombre, l'ours géant qui rugit face aux enfants. Il y a toute une symbolique imagée qui nous permet, en tant que lecteur ou lectrice, bah, finalement de vivre les émotions que vous faites passer dans le regard des uns ou des autres, pas forcément à travers le regard des pères. Pourquoi avez-vous opté dans le choix de la forme, justement, pour, je dirais, un dessin qui frôle l'esquisse au fusain, au crayonné? Pourquoi ce choix-là?
Au départ, ben, j'avais, c'est comme ça que j'ai travaillé pour René Lévesque. Il y avait une question de montrer l'humanité pour ce qui est de René Lévesque, l'humanité qui avait fait preuve comme journaliste en Corée, qui est à la base de sa renommée en tant que journaliste, puis qui a provoqué la suite des choses, c'est qu'il s'intéressait aux gens. Puis je me suis rendu compte qu'avec c'est tout du crayon mine, en différentes variétés, différentes densités de crayon mine, ça permettait aussi de montrer toute une palette de gris et donc de que ce soit pas noir et blanc comme l'expression des choses noir et blanc. Non, il y a des zones grises partout dans la guerre. C'était ça l'idée au départ. Puis avec notre histoire, au départ, je voulais aussi être capable de terminer la bande dessinée un jour. C'est quand même 240 planches à peu près. Puis je cherchais une technique qui me permette à la fois d'aller assez rapidement et de faire passer toutes les émotions de mes personnages. Et une chose que j'ai vue, moi, à un moment donné, ma fille, la plus vieille comme enfant, j'avais amené voir une psychologue, puis la psychologue l'a fait dessiner. Puis c'est là que j'ai vraiment compris, c'est-à-dire que j'ai incarné à l'intérieur de moi la compréhension du fait que un trait de dessin, et peu importe la qualité du dessinateur, parle beaucoup de la personne qui dessine. Et puis que plus mon dessin était proche des esquisses, plus il y avait une vie que je perdais en faisant des dessins qui étaient beaucoup plus, entre guillemets, finis, où je réussissais à enlever le plus possible des erreurs ou des tremblements ou peu importe. Mais l'idée du beau dessin avait de moins en moins de valeur pour moi. C'était plutôt d'avoir le dessin juste qui vibre, où il y a quelque chose qui se passe. Mm-hmm. Et puis avec ce crayonné-là, c'est comme ça que j'ai appris à dessiner aussi quand j'étais jeune, avec ce crayonné-là, j'étais capable de faire passer beaucoup de sous-textes.
Vous avez réalisé également un autre projet, Félix and Anya, vous en parlez dans la BD, et ce projet est bien disponible sur le net à felixandanya.com. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, et est-ce que vous avez réellement organisé des ateliers pour utiliser la BD pour raconter ses propres récits ou ses propres problèmes? Comment cela se déroulait?
Mais Alain et moi, nous avons une bourse de le ministère d'Éducation pour présenter des nouvelles recherches neuroscientifiques sur la transmission de traumatisme et aussi des stratégies de guérison. Donc, on avait fait cette bande dessinée en ligne, Félix et Anya. Puis le cible était des cégepiennes et des secondaires, des élèves de secondaire. Puis ça nous permet de parler de le thème de notre bande dessinée géant en même temps et développer notre façon de rencontrer une histoire et aussi pour Alain de développer son style de dessiner l'histoire.
Mais oui, c'est exactement ça. Puis c'est pour ça que j'ai essayé de me détacher de mes habitudes avant de faire un dessin pour qu'il soit le plus, en guillemets, beau possible. Puis Félix et Anya, ça m'a vraiment... Félix et Anya, c'est en anglais. Ça m'a vraiment permis d'explorer une autre façon de faire en me pardonnant, d'une certaine façon, d'y aller le plus spontanément possible avec toutes les erreurs qui viennent avec ça, avec avec tous les accidents qui expriment des choses mais qui sont pas nécessairement du Tintin, là. C'est pas un dessin parfait, super propre. Il y a moyen de faire des formes simples. Ça vient aussi d'un livre de Scott McCloud qui est sur comment faire sur la théorie de la bande dessinée. Faire des formes simples, ça permet pas juste de faire un travail plus facile, mais ça permet de créer des personnages qui sont universels. Alors, Charlie Brown, Mickey Mouse, c'est universel. Puis si on regarde Bilal, c'est singulier. Quand on regarde un personnage de Enki Bilal, on sait que c'est une personne précise. Si on regarde Charlie Brown, on peut l'intégrer et se dire que c'est nous. Donc, c'est pas juste une question de beau dessin versus dessin rapide. C'est vraiment une question de représentation du point de vue comment le spectateur aborde le personnage. Soit qu'il s'y identifie complètement, c'est pour ça que les enfants vont adorer des personnages universels, et comment la bande dessinée ou les dessins sont très précis, on les voit vraiment comme un personnage autre qui n'est pas nous. Et on vit à travers cet autre. Alors, c'est deux expériences différentes. Moi, je me suis dit qu'avec Félix Sérignan, je voulais que les personnages soient quelque part entre les deux, qu'ils aient une représentation à la fois symbolique, à la fois universelle, et qu'on comprenne aussi que c'est des individus.
Voilà qui achève Mission Encre Noire pour ce soir, le tome 36, le chapitre 399. J'ai eu le plaisir de recevoir en première partie d'émission Jean-Michel Leprince pour La Faute à Pablo Escobar, paru en 2022 aux éditions Loméac, ainsi qu'en deuxième partie d'émission, Alain Chevarier et Marc Maguire sont venus nous présenter la BD Géant aux pieds d'argile, paru en 2022 aux éditions Moelle Graphique. Voilà, on tourne la page. Je vous souhaite un joyeux Noël et de passer de belles fêtes. On se revoit au mois de janvier. D'ici là, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là!